On le rappelle, After Work Curieux, d'ailleurs ça fait la parfaite transition pour ce soir 18h30 puisqu'on a un des intervenants qui est en notre compagnie sur Bob FM, c'est Jean-Luc Morel. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Parrain de cette 30e édition, c'est un bel honneur, non?
Bah c'est surtout une charge.
Ah, en
non,
quoi
non, mais je prends ce rôle très au sérieux parce que la fête de la science c'est quelque chose pour moi de très important. On a pratiquement le même âge, professionnellement parlant, puisque moi j'ai commencé ma carrière il y a presque 30 ans. Donc voilà. Quoi vous dire ? Pour moi c'est important parce que ça me permet d'aller voir ce qui se passe ailleurs sur le territoire, parce que je travaille dans un laboratoire à Bordeaux, donc je connais bien, très bien Cap Science. Et puis, quand on m'a proposé d'être l'ambassadeur de la fête de la science en Nouvelle-Aquitaine, je me suis dit ça va être une très très bonne occasion pour moi d'aller voir ce qui se passe dans tout le territoire, parce que c'est aussi quelque chose de très important pour moi de pouvoir discuter de science où qu'habitent les gens. Et effectivement, dans les très grandes villes, la science est relativement accessible parce qu'il y a des universités, parce qu'il y a des centres de sciences qui font très régulièrement des animations, des rencontres, etc. Et puis, il y a des territoires un peu plus éloignés de ces centres de sciences et il faut absolument aller parler de science avec les plus jeunes, mais aussi leurs parents, leurs grands-parents.
Oui, bien sûr, c'est la science, c'est pour tout le monde, tout public, partout.
Exactement.
Et d'ailleurs, vous avez la chance, comme vous le dites très bien, d'avoir un regard objectif assez, on va dire, reculé sur une vision d'ensemble, voilà, sur tout le territoire, sur la culture scientifique, sur la transmission, l'apprentissage des pratiques scientifiques à tous les niveaux. Est-ce que vous avez un avis là-dessus au niveau des scolaires ? Est-ce qu'on assiste à une désaffection un petit peu des sciences et de, par exemple, des mathématiques, de la biologie, des choses comme ça? Moi, j'ai toujours entendu qu'il y avait un désintérêt, alors désintérêt c'est peut-être un peu fort, mais une espèce d'évolution dans l'intérêt des élèves pour ces pratiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous, au quotidien?
Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Malheureusement, je n'ai pas forcément le temps de creuser ça. J'imagine qu'il y a des tas de travaux, d'études qui ont été menées sur cette désaffection. Je crois qu'en tous les cas, il y a toujours une curiosité. Moi, ça m'est arrivé encore lundi. J'étais dans un collège de Charente-Maritime. Et on sent qu'il y a de grandes attentes des jeunes pour la science. Ils sont très attentifs. Il y en a qui posent vraiment beaucoup de questions. Alors je reprendrai un peu ce que disait Armel là tout de suite, c'est qu'effectivement faut réussir à adapter son discours. On a même eu une discussion avec ses collégiens sur le sens des mots, parce que quand on fait de la science, quand on est chercheur, souvent on a un vocabulaire qui est très très précis et il faut expliquer parfois ce vocabulaire. Alors les médiateurs de science sont là pour nous aider beaucoup en le faisant, je dirais, au quotidien, mais c'est un point important pour parler de science. Mais je pense qu'il y a un vrai intérêt des enfants. Et depuis quelques années, moi, quand je viens dans des collèges ou des lycées, je propose à l'établissement d'organiser une rencontre avec les parents le soir. Donc je donne une ou deux conférences aux enfants. On peut avoir des ateliers, je mets en place des petites... On peut parler d'expériences, de choses comme ça. Et puis, le soir, si c'est possible, j'aime bien discuter avec les parents. Pourquoi ? Parce que je pense que, d'ailleurs, souvent, les musées de sciences le disent, les enfants sont une bonne entrée en matière, font venir leurs parents parce qu'ils sont allés dans un musée de sciences avec leur collège, école, lycée. Et donc, ils reviennent avec leurs parents plus tard. Visiter ce musée de sciences. Et je crois qu'il y a une vraie appétence des gens pour la science. Après, elle est difficile peut-être à mettre en œuvre. Et puis après aussi, aujourd'hui, il faut voir que les études scientifiques, c'est pas forcément facile, je dirais. Je pense pas que ce soit dur, mais je pense que c'est pas forcément facile. Et il faut s'acharner. Et peut-être que effectivement, il peut y avoir des gens qui pensent que c'est trop compliqué pour eux ou quelque chose comme ça, mais bon, après Moi, je crois que la science a encore un bel avenir.
Ben, bien sûr, il faut y croire, effectivement. Et puis, ce genre d'événement est là aussi pour le prouver, pour continuer tout ceci. Avec, ben, comme vous le disiez très justement, les enfants qui arrivent peut-être à réveiller une curiosité enfouie chez les parents, justement, après avoir participé à ce genre d'événements ou les événements que proposent tout au long de l'année, notamment Récréascience et les autres centres de culture scientifique. Moi, je vais m'intéresser aussi à ce que vous faites, Jean-Luc. Vous êtes chercheur au CNRS, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre travail, votre parcours? Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Plein de choses. Déjà, j'essaye de vulgariser un peu les savoirs que j'ai ou mon intérêt pour les sciences. Après, moi, j'ai un parcours... souvent, je le présente comme ça aux jeunes parce que ça permet aussi peut-être de dire que rien n'est complètement joué. Je fais partie des tas de gens de ma génération qui ont échoué en médecine. Donc, voilà, comme quoi tout n'est pas perdu. Ce n'est pas la fin du monde. Et donc, après, j'ai fait des sciences, j'ai fait des études en biologie. Alors, je suis passé par l'université de Rouen, après l'université de Nantes, après l'université de Bordeaux. Et puis, j'ai fait une thèse en pharmacologie, principalement. Et puis, après, je suis rentré au CNRS. Et aujourd'hui, je travaille dans une équipe de recherche à l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux. Et une équipe de recherche qui s'intéresse à la consolidation du souvenir. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Alors nous, on modélise beaucoup chez l'animal, hein, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'un souvenir persiste sur le long terme? Donc voilà, on essaye de comprendre ça, on est plusieurs dans cette équipe. Donc c'est des expériences qui sont longues la plupart du temps. Et puis il y a une autre partie de mon activité de recherche dont je vais parler ce soir, si j'ai bien tout compris. C'est depuis 1999... Je conduis des recherches en biologie, mais en biologie dans l'espace. J'essaye de comprendre comment le vivant terrestre s'adapte à des conditions extraterrestres. Ah oui. Alors, je le dis comme ça parce que ça fait beaucoup plus rêver, mais...
C'est tout à fait fascinant, oui, c'est clair. Alors, donc un travail sur les neurosciences, sur la matérialisation du souvenir, et puis la biologie spatiale... Est-ce qu'il y a un lien entre
Il y a un lien parce que je travaille, j'applique les recherches que je fais dans le domaine du spatial. Alors après, le domaine spatial, c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup aussi en ce moment, parce que j'ai la chance d'avoir la charge du groupe de travail Sciences de la vie et exploration humaine de l'espace au CNES. Donc je m'occupe un peu de suivre les travaux qui se font en France en biologie spatiale, et puis aussi d'être un peu force de proposition avec tout un groupe de travail pour essayer de trouver de nouveaux axes de recherche dans ce domaine, et puis essayer de conduire, d'aider à conduire une politique de recherche dans ce domaine.
D'accord, très bien. Donc, au quotidien, si on s'intéresse un petit peu aussi à la biologie spatiale, même si on ne va pas spoiler, on rappelle nos auditeurs qui voudraient assister à l'afterwork de ce soir, en quoi ça consiste? Quel est le genre d'expérience que vous pouvez mener?
Alors, en ce moment, vous en entendez beaucoup parler parce que Thomas Pesquet est dans l'ISS, donc il conduit un certain nombre d'expériences qui sont complètement de la biologie spatiale. Le grand projet qu'il a en ce moment... qui l'occupe une partie de son temps, et puis qui va occuper je ne sais plus combien, mais beaucoup beaucoup d'établissements scolaires en France, c'est l'élevage, si on peut dire, d'un blob qui est élevé là-haut et élevé dans les établissements scolaires. Je suis presque sûr qu'il doit y en avoir un ou deux à Limoges quelque part. Enfin, en tous les cas, le collège de Montendre où j'étais lundi a son blob. Le blob a été mis en culture, si j'ose dire, ou réveillé, je ne sais pas comment il faut dire, cette semaine, en même temps que...
Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un blob?
Alors là, moi, je suis complètement incompétent sur le sujet.
Parce que moi,
j'ai
des images qui me viennent en tête. Mais
voilà, vous inviterez...
Tapez ça sur Internet, les auditeurs.
Voilà, le blob. Allez voir sur Internet, et puis surtout, allez écouter, vous trouverez aussi, je vous conseille d'écouter... ma collègue du CNRS d'ailleurs, qui s'appelle Audrey Dussautour et qui est la grande spécialiste française des blobs. Elle en parle magnifiquement. Et vous allez trouver sur Internet des tas de vidéos où elle parle du blob.
D'accord. Donc une expérience autour du blob. Ça, c'est ce qui se passe dans l'ISS actuellement.
Voilà, c'est ce qui se passe actuellement dans l'ISS, mais plus généralement. Et puis ça, c'est une expérience. Mais Globalement, on essaye de comprendre comment le vol spatial peut affecter éventuellement la santé des cosmonautes, mais aussi toute la vie sur Terre. Alors, par exemple, ça peut paraître, trivial, mais on pense beaucoup, vous avez peut-être vu des images des cosmonautes en train de manger dans l'espace, potentiellement de manger les végétaux qui seraient produits dans l'espace, mais est-ce que les végétaux qui sont produits dans l'espace ont les mêmes qualités nutritionnelles que sur Terre ? Parce que, bien évidemment, le végétal s'est adapté à ces nouvelles conditions de vie et il n'a peut-être plus tout à fait la même biologie. Et de la même façon, on va s'interroger à la biologie d'un certain nombre d'espèces animales pour telle ou telle raison, et puis, bien évidemment, de la santé et de la physiologie des gens qui sont actuellement dans l'espace.
D'accord. Donc, forcément, vous avez aussi des retours de... Comment dire ? Vous avez une équipe qui travaille sur ces spécificités-là.
Alors, il y a, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, il y a à peu près 40 projets de recherche qui ont été sélectionnés par le CNES qui concernent la biologie dans l'espace et donc qui abordent tous les sujets. C'est comment le tissu osseux se remodèle dans l'espace, comment... vous savez, on le voit régulièrement, les astronautes, ils ont une fonte musculaire. Hein, ils perdent de la masse musculaire un peu dans l'espace. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Comment on peut lutter contre ça? Etc. On va aussi s'intéresser, ça c'est des travaux d'une équipe française qui est à Nancy, dirigée par Jean-Paul Frippia, qui a pu montrer que, par exemple, on ne produit plus les mêmes anticorps dans l'espace. Que sur Terre. Donc il y a des modifications des anticorps qui vont être produits quand on est dans l'espace. Donc ça peut avoir des conséquences. On revient à mon histoire de mots, on peut dire que ça peut avoir des conséquences, que c'est des altérations, parce qu'on pense que c'est moins bon, mais pourquoi pas, ça pourrait être aussi des grandes opportunités, c'est-à-dire être capable... si on ne produit plus tout à fait les mêmes anticorps dans l'espace que sur Terre, on serait capable de produire des nouvelles molécules. Et ça peut être biologique. Et ça pourrait avoir aussi des intérêts, bien sûr pour expliquer comment le vivant fonctionne, mais pourquoi pas pour des choses un peu plus appliquées, même si c'est pas, on n'ira pas faire forcément, ce sera pas forcément d'intérêt industriel ou des choses de genre.
Ah, bien sûr, puis c'est le genre d'informations comme vous le dites très bien, qui peuvent avoir des répercussions positives ou négatives sur une espèce de vision future de la vie humaine sur notre planète.
Oui, oui, oui. Déjà sur la Lune. On ira plus vraisemblablement sur la Lune qu'ailleurs, mais ce serait déjà pas mal.
Voilà, donc ça fait partie des choses que vous nous présenterez ce soir, notamment un peu plus encore en détail, j'imagine, du côté de l'Afterwork Curieux, en compagnie de Michel Galliot, effectivement, qui lui nous fera d'autres retours d'expérience, notamment de la base antarctique. C'est bien cela, Armel, hein ? Oui, tout à fait, tu confirmes.
Je crois. C'est ça, 8h30 au musée, ce soir. Et ça s'appelle l'émotion de la découverte.
Exactement. Eh bien, merci à tous les deux. On va vous libérer tout de suite sur les ondes de Bob FM. On vous remercie. Puis on se retrouve de toute façon ce soir pour l'Afterwork. Merci Jean-Luc.